Le journal.
Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Des rames TGV pour sauver l'usine Alstom de Belfort. Le plan du gouvernement satisfait les salariés qui restent toutefois méfiants. Le reportage à Belfort d'Isabelle Raymond dans un instant. La gauche introduit la sélection à l'université dès la rentrée prochaine pour l'entrée en master. Sélection, un terme qu'évite la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Nous verrons cela avec Sonia Bourran. L'Union européenne ratifie l'accord de Paris sur le climat visant à limiter à 2 degrés le réchauffement. Le texte va pouvoir rentrer en vigueur, nous expliquera Véronique Robérotte. Quel avenir pour le processus de paix en Colombie après l'échec du référendum? Nous en parlerons avec notre invité, l'universitaire colombien Bernardo Carvajal, professeur de droit à Bogota. Le site d'Alstom de Belfort est sauvé. Voilà le tweet de Manuel Valls pour se féliciter du plan de sauvetage gouvernemental. L'État met la main à la poche en commandant à Alstom des rames TGV pour un montant de 500 millions d'euros. 70 millions seront investis sur le site de Belfort, ce qui signifie que l'usine franc-comtoise continuera à produire du matériel ferroviaire. Elle devrait aussi fabriquer des bus électriques de nouvelle génération. Des mesures bien accueillies à Belfort, même si la prudence reste de mise. C'est un reportage d'Isabelle Raymond.
Autocollants non à la fermeture collée sur leur blouse grise, les salariés d'Alstom Belfort attendent les annonces du gouvernement devant les grilles de la préfecture, quand soudain, la délivrance.
Le projet de transfert de l'activité de Belfort sur Reichshoffen est oublié. Il est totalement remis en cause.
Merci l'État qui passe directement commande pour 15 rames TGV pour les faire rouler à petite vitesse sur la ligne Bordeaux-Marseille. Ça représente 30 motrices à fabriquer pour Belfort, 1 an et demi de travail assuré et 500 millions d'euros à débourser pour l'État. Où les trouver? Le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, s'agace.
C'est pas 500 millions d'euros qu'on met en l'air. Il y a du matériel derrière, il y a de la commande. Bien évidemment. Et s'il y a de la commande, il y a de l'emploi.
En échange, Alstom promet des investissements sur le site. Quelques 40 millions pour faire de Belfort un centre européen de maintenance des trains. Développer également le bus électrique, un peu vague selon le maire Les Républicains de la ville, Damien Meslot.
J'aimerais qu'on ait quelques précisions sur le bus du futur et qu'on puisse développer plus rapidement ce bus et le produire sur Belfort.
Les élus locaux vont mettre en place avec les syndicats un comité de suivi pour être certain que les promesses n'engagent pas que ceux qui les écoutent, surtout après l'élection présidentielle.
Isabelle Raymond avec Laurent Maketti. L'opposition critique ce plan de sauvetage d'Alstom Belfort. La sénatrice Fabienne Keller, en charge des transports chez les Républicains, dénonce un rafistolage qui ne constitue en rien une stratégie industrielle. Même tonalité chez Marine Le Pen qui fustige un bidouillage qui ne garantit pas l'activité et l'emploi sur le site de Belfort. La gauche n'aime pas le terme, mais c'est bien la sélection que le gouvernement va instaurer à l'université. Dès la rentrée prochaine, l'entrée en master sera filtrée, si l'on peut dire. Un accord a été trouvé aujourd'hui entre les présidents d'université et les organisations étudiantes. Sonia Bourran, preuve que le sujet est sensible, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'est bien gardée de parler de sélection.
Oui, elle n'a pas du tout prononcé le mot. Elle a surtout insisté sur ce compromis historique qui met fin à 14 ans de dysfonctionnement, car cet accord a permis de trouver un point d'équilibre entre la sélection et le droit à la poursuite d'études. Les universités pourront sélectionner à l'entrée du master, sur dossier ou sur concours, mais ils devront fixer les modalités d'accès et les capacités d'accueil. Une plateforme d'information sera mise en place et les étudiants qui n'obtiendront pas le master de leur choix se verront proposer 3 autres masters, dont un dans leur établissement. S'ils doivent partir dans une autre académie, ils pourront bénéficier d'une aide à la mobilité. C'est une vraie victoire, selon Lila Lebas, la présidente du syndicat étudiant UNEF.
S'il propose à un étudiant qui a obtenu sa licence à Lille, par exemple, et d'aller faire son master à Lyon ou à Grenoble, on se rend bien compte des difficultés sociales que cela crée et des inégalités que ça augmente pour les étudiants. Et donc nous, ce que l'on a posé dans ces concertations, depuis le départ, les exigences que l'on avait, c'était qu'il y ait au moins 3 propositions qui soient faites à un étudiant qui s'est vu refuser tout accès au master au préalable et que ces 3 propositions, il y en a une qui se fasse à minima dans l'établissement, là où obtenir sa licence. Et on aura une vigilance très précise sur ces questions-là pour que notamment ce droit-là il soit applicable dès la rentrée prochaine et que plus aucun jeune se retrouve sur le bord de la route en n'ayant pas accès au master.
Un texte de loi sera adopté dans les tout prochains mois pour une application à la rentrée 2017.
Sonia Bourran au ministère de l'Éducation, merci. C'est une nouvelle étape dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après les États-Unis, l'Inde et la Chine, l'Union européenne a ratifié aujourd'hui à Strasbourg l'accord de Paris sur le climat. Un vote massif du Parlement européen, 610 voix pour, 38 contre et 31 abstentions, dont celle des élus du Front National. Avec la signature de l'Europe, l'accord de Paris va pouvoir s'appliquer. Rappelons que le texte prévoit de limiter dans les prochaines années à 2 degrés le réchauffement de la planète. Alors Véronique Robérotte, comment cela va-t-il se passer concrètement ?
L'accord de Paris sur le climat était l'an passé un bon point de départ. Son entrée en vigueur, donc dans un mois, début novembre, grâce à la ratification de l'Union européenne, marque maintenant le temps de l'action. C'est le vrai point de départ. Alors les 62 pays ayant à ce jour ratifié l'accord acceptent de s'engager dans des transitions énergétiques nationales qui tournent résolument le dos aux énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz, cap sur les énergies renouvelables partout dans le monde et sur les économies aussi d'énergie. Les efforts à fournir pour aller vers ces économies bas carbone sont inégaux et manque souvent d'ambition en ces temps de crise économique. Certes, les énergies renouvelables représentent 90% des investissements mondiaux en matière de production d'électricité en 2015. Certes, la Chine, asphyxiée, premier pollueur mondial, fait d'énormes efforts pour verdir sa politique énergétique. Certes, certains États tournent le dos aux centrales à charbon les plus polluantes, mais il va falloir aller bien plus loin et bien plus vite. À ce stade, si chacun tient sa feuille de route présentée à Paris l'an passé, le monde se dirige vers un réchauffement global d'au moins 3 degrés d'ici la fin du siècle. L'objectif de l'accord de Paris, c'est de contenir la hausse de la température de la planète nettement en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Il est d'ores et déjà jugé irréaliste par les climatologues. Les 2 degrés pourraient être atteints dès 2050. Alors sans même être entré en vigueur, l'accord de Paris n'est déjà plus adapté à une réalité de dérèglement climatique qui semble s'être emballé en 2016. Un bon point de départ, mais sûrement pas une fin en soi.
Véronique Robérotte, merci. Partons aux États-Unis à présent pour évoquer ce nouveau temps fort dans la campagne présidentielle. La nuit prochaine, cette nuit, le débat des candidats à la vice-présidence. D'un côté, le républicain Mike Pence pour Donald Trump. De l'autre, le démocrate Tim Kaine pour Hillary Clinton. Le sénateur Tim Kaine qui jouera à domicile puisque le débat aura lieu dans son état, la Virginie, à Farmville. Il s'agira de la seule confrontation entre deux hommes réputés discrets et le ton pourrait être plutôt mesuré, Frédéric Carbone.
Dans une campagne où tous les coups sont permis, où on s'est même échangé des menaces de sextape, voilà côte à côte deux responsables politiques bien élevés et deux hommes très influencés par leurs croyances religieuses. À droite, Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, caution de Donald Trump vis-à-vis des chrétiens évangéliques, ultra-conservateurs qui ne commencent pas un discours sans dire que Dieu guide ses actes. Et à gauche, Tim Kaine, version catholique sociale, en mission en Amérique centrale dans sa jeunesse et qui en a gardé une pratique de l'espagnol bien utile dans la campagne pour courtiser le vote hispanique. Les deux hommes divergent bien sûr idéologiquement, mais ils ont été choisis pour les mêmes raisons, l'expérience politique, l'ancrage local, la loyauté, bref une forme d'assurance tout risque, même si le charisme n'est pas leur principale qualité. Plus d'un tiers des électeurs disent ne pas les connaître suffisamment pour avoir une réelle opinion. Mike Pence a un léger avantage sur la notoriété. Il sera aussi le plus attendu la nuit prochaine. Comme d'habitude en effet, le débat tournera autour de Donald Trump et le vice-président, contrairement au candidat, a choisi de rendre public ses déclarations d'impôts.
Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis, notait que le deuxième débat entre Donald Trump et Hillary Clinton aura lieu dimanche prochain, 9 octobre, à Saint-Louis. Deux jours après l'échec du référendum en Colombie, le gouvernement et la guérilla des FARC ont repris leurs discussions aujourd'hui à La Havane. Dimanche, à la surprise générale, les électeurs colombiens avaient rejeté à 50,21% l'accord de paix signé la semaine dernière à Carthagène. La participation a été très faible, moins de 40%, mais la victoire du non retarde la mise en place d'une solution pacifique durable en Colombie. Invité de ce journal, Bernardo Carvajal, professeur de droit public et droit constitutionnel à Bogota. Bonsoir.
Bonsoir.
Bernardo Carvajal, revenons tout d'abord sur ce référendum de dimanche. Et ce sont d'abord les grandes villes qui ont rejeté l'accord de paix avec les FARC.
Oui, tout à fait. D'après les résultats, les statistiques par région nous montrent en effet que dans les villes les plus touchées depuis des années à la violence en Colombie, elles ont été largement favorables au oui. Plus de 80, voire 90% de la population pour le oui, alors que dans certaines villes, dans certaines régions, notamment le fief des leaders politiques du non, ont voté et c'est le non qui l'a emporté.
Ce leader politique, en l'occurrence, c'est l'ancien président Alvaro Uribe qui était hostile à cet accord.
Oui, tout à fait. Il disait qu'il ne fallait pas négocier avec les guérillas de la FARC, tout d'abord, qu'il fallait continuer de le combattre. Ensuite, il a changé un peu son discours. Il a dit qu'il fallait négocier autrement, surtout en ce qui concerne ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire des bénéfices en matière pénale aux guerrilleros. Il dit que c'était pas juste. Donc, ensuite, il a dit également que si les guerrilleros faisaient de la politique, si les cadres des FARC auraient des places au sein du Congrès colombien, de notre Parlement, et ça risque de faire entrer ce qu'on appelle le castro-chavismo, c'est-à-dire l'influence des idées qui sont présentes au Venezuela. Donc ça a marché, le message est passé et la population s'est mobilisée, à mon avis, en fonction de la peur qu'a suscité ce discours du non.
Bernardo Carvajal, vous avez participé à l'élaboration de l'accord de paix. Cet accord, justement, prévoyait une sorte d'amnistie pour les guerrilleros.
J'ai suivi la formation des accords de paix et en effet, il n'y avait pas tout à fait l'amnistie. C'était tout simplement en échange de la vérité et de la réparation parce qu'on a mis en premier lieu les droits des victimes. Donc c'est dans le cadre d'une justice réparatrice. Donc si vous arrivez à dédommager les victimes, à leur dire la vérité, tout ce qui s'est passé, en échange vous aurez des bénéfices, dont notamment une restriction des libertés. Ils iraient pas en prison, mais pourtant ils seraient dans des fermes agricoles pendant une période entre 2 ans et 8 ans. Et c'est ça ce qui notamment a refusé M. Uribe.
Mais pourtant, des guerrilleros qui ont peut-être du sang sur les mains, on peut comprendre qu'il faille peut-être les envoyer en prison.
Il faut préciser que dans les accords de paix, c'était très clair, c'était précis, que ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité, ils étaient exclus de tout bénéfice en matière pénale. Donc ça veut dire qu'il y aurait de la prison ferme en ce qui concerne les crimes contre l'humanité.
Et justement, cela concerne un certain nombre de guerrilleros qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité en Colombie?
Oui, tout à fait. Ça concerne un nombre très important.
C'est-à-dire combien?
Les FARC en total, ça fait 8000 guerrilleros. Et puis, il y a dans chaque région, il y a des cadres. Et donc, on parle à peu près d'une organisation d'une centaine de cadres, des dirigeants région par région, plus les 10 qui composent, qui intègrent le quartier général. Donc, on pensait au jugement des crimes contre l'humanité, contre ces cadres, mais en même temps, il y avait une certaine contradiction parce qu'on assurait leur participation en politique, notamment leur assurant 8 places pendant 2 périodes à l'Assemblée législative.
Donc pour vous, il était important peut-être de donner une possibilité de sortie aux guerrilleros, ne pas forcément les envoyer en prison.
À mon avis, c'est important et c'est pas
à certains guerrilleros.
Et c'est pas uniquement dans le cas de la Colombie. Si on fait une comparaison d'autres expériences en ce qu'on appelle la justice transitionnelle pour sortir de ces crises, des conflits internes armés, c'est pas pour la première fois qu'on propose ce type de justice réparatrice avec des bénéfices en matière pénale. Donc à mon avis, il faut le faire parce qu'il faut assurer la transition d'une guérilla en tant que groupe combattant, groupe armé, hors la loi, pour qu'il devienne un mouvement politique. Donc ça, c'est vraiment un sujet, une question très importante en ce qui concerne les accords de paix.
Bernardo Carvajal, avec la victoire du non au référendum, est-ce que la paix est menacée aujourd'hui en Colombie?
Le non ne veut pas dire que le peuple colombien veut la guerre. Enfin, c'est pas pour la guerre, c'est pour faire la paix autrement, parce que les gens y trouvaient que c'était pas juste à tout ce qui avait été accordé. Donc, il y a cette possibilité, convoquer une assemblée nationale constituante, pour que ça soit vraiment les représentants du peuple qui tranchent. C'est un peu l'arbitrage du peuple, puisque les représentants ne se sont pas mis d'accord. Et ensuite, il y a la renégociation. Mais la renégociation doit être vraiment ponctuelle. C'est-à-dire, ça doit correspondre soit à la question du droit pénal, de la justice, est-ce qu'il y a de l'impunité ou pas, pour certains. Et puis, le deuxième point très fort, c'est la participation en politique des anciens guerrilleros.
Bernardo Carvajal, professeur de droit à l'université Externado de Bogota. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En Syrie, l'offensive terrestre du régime Assad sur Alep se poursuit. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les soldats du régime ont progressé ces dernières heures dans les quartiers est de la ville tenus par la rébellion essentiellement islamiste. L'OSDH évoque de violents combats de rue pour le contrôle de bâtiments stratégiques. Retour en France avec la météo demain. Petite dégradation nuageuse qui touchera le sud-ouest. Quelques pluies seront possibles, notamment sur les Pyrénées. Partout ailleurs, un temps sec et bien ensoleillé après la dissipation des brumes matinales. Température maximale 14 à 20 degrés sur la moitié nord, 22 à 26 au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.